Catéchisme de Rome. Petit catéchisme. Quatrième partie des sacrements. Chapitre 1er. Des sacrements en général. Combien y a-t-il de sacrements? Il y a 7 sacrements, le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême onction, l'ordre et le mariage. Qu'entend-on par le mot sacrement? Par le mot sacrement, on entend un signe sensible et efficace de la grâce, institué par Jésus-Christ pour sanctifier nos âmes. Pourquoi appelez-vous les sacrements signes sensibles et efficaces de la grâce? J'appelle les sacrements signes sensibles et efficaces de la grâce de Dieu parce que tous les sacrements signifient, au moyen de choses sensibles, la grâce divine qu'ils produisent dans notre âme. Comment les sacrements nous sanctifient-ils? Les sacrements nous sanctifient en nous donnant ou en augmentant en nous la grâce qui nous rend saints et agréables à Dieu, ses enfants adoptifs et les héritiers de son paradis. Qui a donné aux sacrements la vertu de nous sanctifier? C'est Jésus-Christ qui, par sa passion et par sa mort, a donné aux sacrements la vertu de nous sanctifier. Quels sont les sacrements qui nous sanctifient en nous donnant la grâce qui nous rend les amis de Dieu? Les sacrements qui nous sanctifient en nous donnant la première grâce et d'ennemis que nous étions nous rendent amis de Dieu sont au nombre de 2, le baptême et la pénitence. On les appelle sacrements des morts parce qu'ils enlèvent le péché qui est la mort de notre âme. Quels sont les sacrements qui nous sanctifient en augmentant la grâce? Il y a 5 sacrements qui nous sanctifient en augmentant la grâce. La confirmation, l'eucharistie, l'extrême onction, l'ordre et le mariage. On les appelle sacrements des vivants parce que celui qui les reçoit doit déjà vivre de la grâce de Dieu, c'est-à-dire être exempt de tout péché mortel. Quel péché commet celui qui reçoit un des sacrements des vivants en sachant qu'il n'est pas en état de grâce? Celui qui reçoit un des sacrements des vivants en sachant qu'il n'est pas en état de grâce commet un grave sacrilège. Quels sont les sacrements les plus nécessaires à notre salut? Les sacrements les plus nécessaires à notre salut sont au nombre de 2, le baptême et la pénitence. Le baptême est nécessaire à tous absolument, et la pénitence est nécessaire à tous ceux qui ont péché mortellement après le baptême. Quels sont les sacrements qu'on ne peut recevoir qu'une fois? Il y a 3 sacrements qu'on ne peut recevoir qu'une fois, le baptême, la confirmation et l'ordre. Pourquoi ces 3 sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre, ne peuvent-ils être reçus qu'une fois? Ces 3 sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre, ne peuvent être reçus qu'une fois parce que chacun d'eux imprime un caractère. Qu'est-ce que le caractère imprimé dans l'âme par chacun de ces 3 sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre? Le caractère imprimé dans l'âme par chacun de ces 3 sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre, est une marque spirituelle qui ne s'efface jamais plus. À quoi sert le caractère qu'impriment dans l'âme ces 3 sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre? Le caractère qu'impriment dans l'âme ces 3 sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre, sert à nous marquer dans le baptême comme membres de Jésus-Christ, dans la confirmation comme ses soldats, dans l'ordre comme ses ministres. Combien de choses faut-il pour faire un sacrement? Pour faire un sacrement, il faut la matière, la forme et le ministre qui est l'intention de faire ce que fait l'Église. Qu'est-ce que la matière du sacrement? La matière du sacrement est la chose sensible que l'on emploie pour le faire, comme par exemple l'eau naturelle dans le baptême, l'huile et le baume dans la confirmation. Qu'est-ce que la forme du sacrement? La forme du sacrement, ce sont les paroles qu'on prononce en le faisant. Qu'est-ce que le ministre des sacrements? Le ministre des sacrements est la personne qui fait ou administre le sacrement. Chapitre 2. Du baptême. Qu'est-ce que le baptême? Le baptême est le sacrement par lequel nous renaissons à la grâce de Dieu et nous devenons chrétiens. Quels sont les effets du sacrement de baptême? Le sacrement de baptême efface le péché originel et aussi le péché actuel s'il existe. Il remet toute la peine due pour ses péchés, imprime le caractère de membre de Jésus-Christ, nous fait enfants de Dieu et de l'Église, héritiers du paradis, et nous rend capables de recevoir les autres sacrements. Quel est le ministre ordinaire du baptême? Le ministre ordinaire du baptême est le prêtre et surtout celui qui a charge d'âme. En cas de nécessité, qui peut donner le baptême? En cas de nécessité, toute personne, homme ou femme, peut donner le baptême, même un hérétique ou un infidèle. Comment fait-on pour donner le baptême? On donne le baptême en versant de l'eau sur la tête du baptisé, ou si on ne peut sur la tête, sur quelque autre partie principale du corps, en disant en même temps « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Quelle intention doit avoir celui qui baptise? Celui qui baptise doit avoir l'intention de faire ce que fait l'Église dans le baptême. Quand doit-on porter les enfants à l'Église pour les faire baptiser? On doit porter les enfants à l'Église pour les faire baptiser le plus tôt possible. À quoi s'oblige celui qui reçoit le baptême? Celui qui reçoit le baptême s'oblige à professer toujours la foi et à observer la loi de Jésus-Christ et de son Église. À quoi renonce-t-on en recevant le Saint-Baptême? En recevant le Saint-Baptême, on renonce pour toujours au démon, à ses œuvres et à ses pompes. Qu'entend-on par les œuvres et les pompes du démon? Par les œuvres et les pompes du démon, on entend les péchés, les maximes corrompues et les vanités du monde. Sommes-nous obligés de tenir les promesses et renonciations faites pour nous au baptême par notre parrain et notre marraine? Oui, nous y sommes obligés, car Dieu ne nous a reçus en sa sainte grâce qu'à ces conditions. Chapitre 3. De la confirmation. Qu'est-ce que le sacrement de confirmation? La confirmation est un sacrement qui nous donne le Saint-Esprit, imprime dans notre âme le caractère de soldat de Jésus-Christ et nous rend parfaits chrétiens. De quelle manière le sacrement de confirmation nous rend-il parfaits chrétiens? La confirmation nous rend parfaits chrétiens parce qu'elle nous confirme dans la foi et perfectionne les autres vertus et les dons que nous avons reçus dans le Saint-Baptême. Quels sont les dons du Saint-Esprit qu'on reçoit dans la confirmation? Les dons du Saint-Esprit qu'on reçoit dans la confirmation sont au nombre de 7. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Tous doivent-ils avoir soin de recevoir le sacrement de confirmation? Oui, tous doivent avoir soin de recevoir le sacrement de confirmation et de le faire recevoir à ceux qui dépendent d'eux. À quel âge est-il bon de recevoir la confirmation? Il est bon de recevoir la confirmation vers l'âge de 7 ans, parce qu'à cet âge commencent habituellement les tentations et qu'on a assez de connaissances pour apprécier ce sacrement et se rappeler ensuite qu'on l'a reçu. Quelles sont les dispositions requises pour recevoir dignement le sacrement de confirmation? Pour recevoir dignement le sacrement de confirmation, il faut être en état de grâce, connaître les principaux mystères de notre sainte foi et s'en approcher avec respect et dévotion. Quel est le ministre du sacrement de confirmation? le ministre ordinaire du sacrement de confirmation est l'évêque. Quelle cérémonie fait l'évêque pour administrer la confirmation? L'évêque, pour administrer le sacrement de confirmation, étend d'abord les mains sur les confirmants en invoquant sur eux le Saint-Esprit, puis il fait avec le Saint-Crème une onction en forme de croix sur le front de chacun en disant ces paroles: Je te marque du signe de la croix et te confirme avec le crème du salut, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, il donne un léger soufflet sur la joue du confirmé en lui disant: La paix soit avec toi. Enfin, il bénit solennellement tous les confirmés. Qu'est-ce que le Saint-Crème? Le Saint-Crème est de l'huile mêlée avec du baume que l'évêque consacre le jour du Jeudi Saint. Que signifie l'huile et le baume dans ce sacrement? Dans ce sacrement, l'huile qui s'étend et qui fortifie signifie la grâce abondante qui se répand dans l'âme du chrétien pour le confirmer dans sa foi. Et le baume, qui est odorant et qui garde de la corruption, signifie que le chrétien, confirmé par cette grâce, est capable de répandre la bonne odeur des vertus chrétiennes et de se préserver de la corruption des vices. Pourquoi l'onction est-elle faite sur le front? L'onction est faite sur le front, où apparaissent les signes de la crainte et de la honte, pour que le confirmé comprenne qu'il ne doit pas rougir du nom et de la profession de chrétien, ni avoir peur des ennemis de la foi. Pourquoi le confirmé reçoit-il un léger soufflet? Le confirmé reçoit un léger soufflet afin qu'il sache qu'il doit être prêt à souffrir toutes sortes d'affronts et de peines pour la foi de Jésus-Christ. Que doit faire le chrétien pour conserver la grâce de la confirmation? Pour conserver la grâce de la confirmation, le chrétien doit prier souvent, faire des bonnes œuvres et vivre selon la loi de Jésus-Christ, sans respect humain. Chapitre 4 de la Très Sainte Eucharistie. Paragraphe 1. De la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Qu'est-ce que le sacrement de l'Eucharistie? L'Eucharistie est un sacrement qui, par l'admirable changement de toute la substance du pain au corps de Jésus-Christ et de celle du vin en son précieux sang, contient vraiment, réellement et substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ notre Seigneur sous les espèces du pain et du vin, pour être notre nourriture spirituelle. Comment s'appelle ce merveilleux changement? Ce merveilleux changement s'appelle la transsubstantiation. Y a-t-il dans l'Eucharistie le même Jésus-Christ qui est au ciel et qui naquit sur la terre de la très sainte Vierge? Oui, dans l'Eucharistie, il y a vraiment le même Jésus-Christ. Pourquoi croyez-vous que dans le sacrement de l'Eucharistie, il y a vraiment Jésus-Christ? Je crois que dans le sacrement de l'Eucharistie, il y a vraiment Jésus-Christ, parce que lui-même l'a dit et que la Sainte Église me l'enseigne. Qu'est-ce que l'hostie avant la consécration? L'hostie avant la consécration est du pain. Et après la consécration, qu'est l'hostie? Après la consécration, l'hostie est le vrai pain de notre Seigneur Jésus-Christ sous les espèces du pain. Dans le calice avant la consécration, qu'y a-t-il? Dans le calice, avant la consécration, il y a un peu de vin avec quelques gouttes d'eau. Et après la consécration, qu'y a-t-il dans le calice? Après la consécration, il y a dans le calice le vrai sang de notre Seigneur Jésus-Christ sous les espèces du vin. Quand se fait le changement du pain au corps et du vin au sang de Jésus-Christ? Le changement du pain au corps et du vin au sang de Jésus-Christ se fait au moment même où le prêtre, pendant la Sainte Messe, prononce les paroles de la consécration. Qui a donné une telle vertu aux paroles de la consécration? Celui qui a donné une telle vertu aux paroles de la consécration est notre Seigneur Jésus-Christ, car il est le Dieu Tout-Puissant. Donc, après la consécration, il ne reste rien du pain et du vin. Après la consécration, il reste seulement les espèces du pain et du vin. Qu'est-ce que les espèces du pain et du vin? Les espèces sont la quantité et les qualités sensibles du pain et du vin, comme la forme, la couleur, la saveur. Sous les espèces du pain, y a-t-il seulement le corps de Jésus-Christ, et sous les espèces du vin, y a-t-il seulement son sang? Tant sous les espèces du pain que sous les espèces du vin, il y a Jésus-Christ tout entier et vivant, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Jésus-Christ est-il présent dans toutes les hosties consacrées du monde? Oui, Jésus-Christ est présent dans toutes les hosties consacrées. Quand on partage l'hostie, partage-t-on le corps de Jésus-Christ? Quand on partage l'hostie, on ne partage pas le corps de Jésus-Christ, on ne partage que les espèces du pain. Dans quelle partie de l'hostie reste le corps de Jésus-Christ? Le corps de Jésus-Christ reste tout entier dans toutes les parties de l'hostie divisée. Pour quel motif conserve-t-on dans les églises la très sainte Eucharistie? La très sainte Eucharistie est conservée dans les églises pour être adorée par les fidèles et portée aux infirmes selon le besoin. Paragraphe 2. De la fin et des effets de l'Eucharistie. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué la très sainte Eucharistie? Jésus-Christ a institué la très sainte Eucharistie pour trois principales raisons. Premièrement, pour qu'elle soit le sacrifice permanent de la nouvelle loi. Deuxièmement, pour qu'elle soit la nourriture de notre âme. Troisièmement, pour qu'elle soit un mémorial perpétuel de sa passion et de sa mort, et un gage précieux de son amour pour nous et de la vie éternelle. Quels sont les effets produits par la très sainte Eucharistie en celui qui la reçoit? Voici les principaux effets produits par la très sainte Eucharistie en celui qui la reçoit dignement. Premièrement, elle conserve et accroît la vie de l'âme qui est la grâce, comme la nourriture matérielle soutient et accroît la vie du corps. Deuxièmement, elle remet les péchés véniels et préserve des péchés mortels. Troisièmement, elle produit la consolation spirituelle. Paragraphe 3. Des dispositions pour bien communier et du devoir de la communion. Combien y a-t-il de choses nécessaires pour faire une bonne communion? Il y a trois choses nécessaires pour faire une bonne communion. Premièrement, être en état de grâce. Deuxièmement, être à jeun depuis minuit jusqu'au moment de la communion. Troisièmement, savoir ce qu'on va recevoir et s'approcher de la Sainte Communion avec dévotion. Qu'est-ce qu'être en état de grâce? Être en état de grâce, c'est avoir la conscience pure de tout péché mortel. Quel péché commet celui qui communie en sachant qu'il est en état de péché mortel? Celui qui communie en sachant qu'il est en état de péché mortel commet un horrible sacrilège. Quel est le jeûne requis pour la Sainte Communion? Le jeûne requis pour la Sainte Communion est le jeûne naturel qui est rompu si on prend la plus petite chose par matière de nourriture ou de boisson. La communion n'est-elle jamais permise à qui n'est pas à jeun? Elle est permise aux malades qui sont en péril de mort et alors la communion est appelée viatique. Qu'entend-on par savoir ce qu'on va recevoir? Savoir ce qu'on va recevoir, c'est connaître ce que la doctrine chrétienne nous enseigne au sujet de ce sacrement et le croire fermement. Que veut dire communier avec dévotion? Communier avec dévotion veut dire s'approcher de la Sainte Communion avec humilité et avec modestie, soit dans le maintien, soit dans les habits, et faire la préparation avant et l'action de grâce après la Sainte Communion. Quand est-on obligé de communier? On est obligé de communier tous les ans à Pâques dans sa propre paroisse et de plus quand on est en danger de mort. À quel âge commence à obliger le commandement ou précepte de la communion pascale? À l'âge où l'enfant est capable de s'en approcher avec les dispositions requises. Est-il bon et utile de communier souvent? C'est une chose excellente de communier souvent, pourvu qu'on le fasse avec les dispositions requises et d'après le conseil de son confesseur. Après la Sainte Communion, combien de temps Jésus-Christ reste-t-il en nous? Après la Sainte Communion, Jésus-Christ reste en nous par sa grâce, tant que nous ne péchons pas mortellement, et par sa présence réelle, il reste en nous jusqu'à ce que soient consommées les espèces sacramentelles. Paragraphe 4 du Saint Sacrifice de la Messe. L'Eucharistie est-elle seulement un sacrement? L'Eucharistie n'est pas seulement un sacrement, elle est aussi le sacrifice permanent de la nouvelle loi. Et comment s'appelle ce sacrifice de la nouvelle loi? Ce sacrifice de la nouvelle loi s'appelle la Sainte Messe. Qu'est-ce que la Sainte Messe? La Sainte Messe est le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ offert sur nos autels, sous l'apparence du pain et du vin, en mémoire du sacrifice de la croix. Le sacrifice de la messe est-il le même que le sacrifice de la croix? Le sacrifice de la messe ressemble au sacrifice de la croix en ce que, dans l'un et dans l'autre, Jésus-Christ est à la fois le prêtre et la victime. Il en diffère cependant par la manière dont il est offert. Quelle différence y a-t-il dans la manière dont il est offert? La différence consiste en ce que, dans le sacrifice de la croix, Jésus-Christ mourut réellement et répandit son sang, tandis qu'au sacrifice de la messe, qui en est la commémoration, il se fait victime sans répandre son sang. De plus, c'est dans le sacrifice de la croix qu'il mérita notre rachat, tandis qu'au sacrifice de la messe, il ne fait que nous appliquer ses mérites. Qui a institué le sacrifice de la Sainte Messe? C'est Jésus-Christ lui-même qui a établi le sacrifice de la Sainte Messe, quand, dans la dernière scène, il institua le sacrement de l'Eucharistie. Pour quelle fin offre-t-on à Dieu le sacrifice de la Sainte Messe? On offre à Dieu le sacrifice de la Sainte Messe pour quatre fins. Premièrement, pour lui rendre l'honneur qui lui est dû. Deuxièmement, pour le remercier de ses bienfaits. Troisièmement, pour l'apaiser et lui donner une satisfaction convenable pour nos péchés. Quatrièmement, pour obtenir toutes les grâces qui nous sont nécessaires. Est-il bon d'entendre la Sainte Messe tous les jours? Il est très utile d'entendre la Sainte Messe tous les jours, bien que ce ne soit pas commandé. Que faut-il faire pour assister avec fruit à la Sainte Messe? Pour assister avec fruit à la Sainte Messe, il faut l'entendre avec grande attention et avec piété, depuis le commencement jusqu'à la fin, en pensant à Dieu, à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, et en récitant de dévotes prières.